grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Courteline disait qu'on change plus facilement de religion que de café. Et pour la plupart d'entre nous, le rituel du café reste une religion quotidienne. Qu'on se prosterne devant un Robusta, un Arabica ou un Liberica, qu'on achète son café chez un torréfacteur ou dans un supermarché, qu'on le prépare dans la machine à capsules de Georges Clounet, dans une cafetière à piston, italienne ou électrique, qu'on le prenne à la maison ou au comptoir d'un café, dans une cafette ou dans un distributeur. Difficile pour beaucoup de se passer de ce breuvage ensorcelant, originaire d'Éthiopie. Au bas mot, 2 milliards de tasses, mugs, gobelets, bols de café sont bus chaque jour dans le monde. Nous verrons ce matin quels sont les bienfaits du café, quelles sont ses vertus pour la santé, quels sont les véritables effets de la caféine sur l'organisme. Nous verrons comment choisir un bon café, comment bien le préparer, quelles sont les erreurs à éviter. Avec nous, deux torréfacteurs, François-Étienne et Hippolyte Courty, un géohistorien, Christian Gratalou, et une chercheuse à l'INSERM, Astrid Nelling, la spécialiste du café en France. Et comme tous les lundis, Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Racontez-nous vos rituels autour de votre tasse de petit noir, votre goût pour le kawa. Posez-nous vos questions sur les effets du café sur la santé. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Aline.
Écrivain, médecin, auteur du blog Alors Voilà. Vous êtes plutôt thé ou café, vous ?
Café. Au lait.
Oh là là. Tous les lundis, vous nous proposez une médecine à visage humain. Qui sera à l'honneur de votre chronique dans quelques minutes ?
On va parler des petits miracles hospitaliers.
A tout à l'heure, Baptiste Beaulieu. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Sou ? T'es là ?
Je voulais discuter avec toi.
Discuter ? On devrait prendre un café.
Pourquoi ?
Parce qu'on boit du café quand on discute plein de café. J'adore boire du café, c'est vrai, j'en ai déjà bu ce matin. Mais je peux pas discuter sans boire de café. Bien sûr, toi t'es trop jeune pour boire du café, tu boiras du chocolat. Je vais aller nous chercher un café et un chocolat parce que moi je peux en boire mais pas toi.
Non merci, ça ira.
C'est dommage, on aurait pu tenir nos mugs de café et de chocolat et les siroter tranquillement en discutant. On aurait pu s'asseoir là, près de la fenêtre, ou sur le lit, ou sur la chaise.
Extrait de la série américaine The Middle. Est-il bon de boire du café quand on est surexcité ? On posera la question tout à l'heure à nos invités. Avec nous ce matin, Christian Gratalou, bonjour. Géohistorien, professeur émérite à Paris Diderot. Vous avez publié Le Monde dans nos tasses. Astrid Nelling, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM. Vous êtes la spécialiste en France des effets du café sur notre santé. François-Étienne, bonjour.
Bonjour.
Artisan torréfacteur, vous avez créé les Cafés de François et vous publiez chez Erol un guide de pratique du café plutôt destiné aux néophytes. Bonjour Hippolyte Courty.
Bonjour.
Fondateur de l'Arbre à Café, vous avez publié Café aux éditions du Chêne, un livre destiné aux amateurs éclairés. Alors Christian Gratalou, le café est sans doute la plus internationale des boissons chaudes. Environ 7 millions de tonnes de café vendues chaque année et 2 milliards de tasses, mugs, gobelets, bues quotidiennement dans le monde. 2 milliards au bas mot.
Oui, on dit que c'est la boisson la plus vendue après l'eau, la plus bue en tout cas, et en tout cas la plus internationalisée, même si le thé lui fait quand même une sévère concurrence. Le thé est quand même beaucoup plus localisé, en particulier en Chine. Mais les Chinois se mettent à boire de plus en plus de café.
Alors, qui sont les plus gros buveurs de café ? La carte du café est relativement simple.
Alors oui, c'est simple. Pour moi, c'est une question nord-sud, en gros. C'est-à-dire qu'on produit le café au sud et on le boit au nord. Alors c'est pas toujours aussi simple. Les Brésiliens sont des grands buveurs de café. Le nom du petit déjeuner au Brésil est le café du matin. Les plus gros buveurs de café sont incontestablement au nord et même très au nord parce que ce sont les Scandinaves.
10 kilos par an et par habitant.
Voilà, qui sont et de qualité en plus en général.
Parce qu'en Suède, il existe le fika, c'est la pause café qui est sacrée, hein, Hippolyte Courty.
Oui, tout à fait. Effectivement, alors là, il y avait avant ce qu'on appelait une opposition au pays de la tasse et pays de la plante. Aujourd'hui, cette distinction s'efface puisqu'il y a, avec la globalisation et la mondialisation, notamment des flux migratoires, il y a beaucoup de gens qui venaient des pays de la plante qui sont allés au pays de la tasse.
Christian Gratalou, en France, nous sommes de gros consommateurs de café ?
Oui, assez. Enfin, pas autant que d'autres pays, mais oui, nous sommes de gros consommateurs de café. La boisson du matin, en France, très majoritairement, est le café.
Quel est le berceau du café ? C'est l'Éthiopie ?
Oui, c'est l'Éthiopie. C'est même au sud-ouest de l'Éthiopie, la région de Kaffa, qui est peut-être l'une des étymologies possibles du café, c'est très discuté. Mais c'est au Yémen que le café a été domestiqué, qu'on a appris à cultiver ce petit cerisier et puis à casser la graine pour faire ces choses en soi bizarre, qui consiste à la griller, la torréfier, puis ensuite la broyer pour ensuite la faire bouillir. C'est des choses qui n'étaient pas évidentes. Surtout qu'il y a un modèle qui ressemble à celui du cacao et un modèle qu'il ne pouvait pas connaître.
Racontez-nous l'une des légendes autour du café, cette histoire de ce jeune berger qui observait ses chèvres.
Ah oui, évidemment, c'est probablement apocryphe, mais on considère qu'un berger était le premier à goûter le café. Mais alors, il s'agissait de la cerise, c'est-à-dire la pulpe rouge qui entoure la graine. Il n'avait pas broyé la graine. Il trouvait que ses chèvres étaient particulièrement surexcitées, un peu comme la dame du feuilleton américain tout à l'heure. Et il a goûté ce que mangeaient les chèvres et il n'en a pas dormi. Donc, effectivement, on aurait découvert la vertu réveillante du café comme ça.
Comment expliquer le succès du café dans les pays musulmans, Hippolyte Courty?
Alors, l'arabica vient effectivement d'Éthiopie.
Le mot arabica.
Le mot arabica, parce qu'il traversait la péninsule arabique, et effectivement, il s'est diffusé à partir du Yémen. L'arabica, donc la consommation d'arabica, mais qui n'est pas le seul café, et donc l'autre café vient des pays plutôt de la ceinture équatoriale africaine, en fait, ça a été diffusé par les soufis. Puisque vous savez qu'il n'y a pas de monachisme dans l'islam, et donc les plus zélés des pratiquants ont besoin d'un excitant, ou en tout cas de maintenir leur attention à leur activité éveillée pendant la nuit. Et le café, en fait, a été diffusé par toutes les sectes, c'est-à-dire les milieux soufis, tout au long de l'islamisation. Donc le café est le fils de l'islamisation.
Christian Grataloup, le café arrive en Europe à quelle date ? C'est autour de 1600, grâce aux marchands vénitiens ?
Oh, c'est même un peu plus tôt. Il y a effectivement différents commerçants méditerranéens qui importent. Tous ceux qui allaient en Méditerranée orientale connaissaient le café, et certains l'ont ramené. Donc les Italiens, bien sûr, des Arméniens, des marchands arméniens, ceux qui l'ont introduit à Marseille, ce sont des Arméniens. Fin 16e. Mais c'est au 17e, les premiers commerçants un peu systématiques ont été néerlandais, d'ailleurs, comme pour le thé. Mais ce sont les Italiens, vraiment, qui ont introduit le café. Le premier, alors, en introduisant non seulement la boisson, mais aussi le commerce qu'on appelle le café, les maisons de café qui s'étaient instituées dans le monde de l'Empire ottoman et que les Italiens ont introduit. Procope, par exemple, à Paris, ça n'a pas été le premier, c'était le deuxième d'établissement de café en 1686, qui existe toujours et qui fut, dit-on, le café des philosophes.
Et la mode du café se propage à partir de 1669, à la cour de Louis XIV, c'est ça ?
Par une ambassade turque, oui. L'ambassadeur turc amène des sacs de café et ça va donner un coup, ça va stimuler considérablement la consommation, qui apparaît à la cour à peu près en même temps que celle du thé, venu par les Néerlandais puis les compagnies des Indes anglaises. Et le chocolat, lui, était apparu un tout petit peu plus tôt par les reines de France, qui étaient des Espagnols, donc qui amenaient le chocolat d'Amérique.
Alors, dès le XVIIIe siècle, les Européens maîtrisent la production de café dans les zones tropicales.
Le café, oui, comme le chocolat, mais pas le thé. Donc le café, c'est quelque chose qui va très très vite être diffusé. Il n'y aura pas un monopole, même si pendant fin 17e, ça vient essentiellement quand même du Yémen, d'Éthiopie. Très vite, des plans, par exemple, des plans qui sont donnés au roi de France et qui sont installés dans l'île Bourbon, dès 1720 à peu près, commencent à produire et à se diffuser. Ils se diffuseront aux Antilles via des plans néerlandais qui, eux, sont passés par Java passeront ensuite en Amérique du Sud.
Alors, le café se diffuse dans toutes les couches de la société en Europe. À partir de quelle époque ? À partir de quand le café commence-t-il à rythmer notre vie quotidienne ?
C'est au XVIIIe siècle que les choses se passent. Parce que début XVIIIe, il ne faut pas oublier que ces produits viennent de très loin, donc sont très chers. Il faut pour cela uniquement, et c'est une consommation uniquement des gens très très riches, comme dans le tableau de Boucher, le déjeuner. Mais au cours du XVIIIe, ça devient une consommation urbaine via les domestiques en particulier, et ce qui fait qu'à la fin du XVIIIe, il y a dans les rues de Paris, de Londres, d'Amsterdam également, des marchands, des distributeurs, des porteurs d'eau. Comme il y a des porteurs de cadeaux, il y a des porteurs de café. Donc on peut acheter du café et ça devient pas cher. Et le café est une consommation de masse urbaine en Europe occidentale à la fin du XVIIIe. On peut dire que la Révolution française a fonctionné au café. Ils ne dormaient pas beaucoup, les conventionnels.
Autour de la table, dites-nous pourquoi le café vous passionne autant, François-Étienne ?
Ah ben, moi, ce qui me passionne.
Vous êtes torréfacteur, je le rappelle.
Oui, je suis torréfacteur. Donc, ce qui me passionne beaucoup dans le café, c'est toute la palette aromatique que peut avoir ce breuvage. C'est-à-dire que on peut avoir quelque chose de corsé. Moi, j'étais un buveur de café qui, avant, je prenais du sucre. Moi, le café, c'était deux sucres, une clope, et c'était. Et j'aimais beaucoup ça parce que je venais du chocolat. Et en fait, le chocolat, c'était de l'amertume avec du sucre. Donc, je suis parti de là. Et ensuite, j'ai évolué vers un monde beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, en arrêtant de mettre du sucre. Et voilà.
Et la cigarette aussi.
Oui, aussi.
Hippolyte Courty.
Moi, je suis venu au café parce que je n'aimais pas le café, qu'on m'avait demandé de travailler justement sur le café. Et en lisant l'ouvrage de Monsieur Grataloup, justement, il disait que le petit déjeuner, grosso modo, est l'inverse du repas. Et donc, pendant longtemps, le petit déjeuner est resté dans l'ombre parce que le repas à la française prenait trop de place. Et en fait, j'ai travaillé dans le vin et c'était exactement la même chose. En France, on fait très peu attention à d'autres boissons longtemps que les digestifs ou que le vin. Et on avait complètement oublié le café. Et à un moment donné, effectivement, j'ai compris que si je n'aimais pas le café, c'était parce que, en fait, on nous proposait pas de bon café.
Voilà. Astrid Nelling, comment est née votre passion pour le café ?
Oh, c'est tout à fait par hasard. C'était pas un choix vraiment délibéré. C'est lié au stage postdoctoral que j'ai fait au début de mes études et où je savais qu'après ce stage postdoctoral, j'intégrerais une unité de néonatologie. Et chez les nouveau-nés prématurés, en fait, ils font des apnées respiratoires, des pauses respiratoires, et ces pauses sont traitées par la caféine. Et c'est comme ça que je suis allée aux États-Unis travailler sur la caféine. Je suis tombée dedans et jamais ressortie.
En tout cas, Hippolyte Courty, vous nous avez préparé un café absolument merveilleux qui n'a pas besoin de sucre. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous nous avez préparé ?
En fait, les bons cafés n'ont pas besoin de sucre parce qu'ils sont naturellement sucrés.
Qu'est-ce que vous nous avez préparé ?
Ça, c'est un café du Panama, une variété qui s'appelle le Caturra Rouge, et avec du bourbon rouge, et qui vient en direct d'un producteur avec lequel on travaille beaucoup, qui s'appelle Jameson Savage.
Et c'est très clair, on dirait du thé.
En fait, voilà, l'opposition très française dialectique de dire vous êtes thé ou café tombe dès qu'on parle de qualité. Donc, dans la qualité, effectivement, il y a beaucoup plus de porosité, de rencontre qu'il ne paraît. Donc, c'est servi comme un thé, exactement.
Vous confirmez, Baptiste Beaulieu, il est très bon ce café.
J'étais très étonné en voyant sa couleur. C'est vrai qu'il a l'air un peu dilué, en fait, il est délicieux. Quoi.
Allez, racontez-nous votre goût pour le café. Quels sont vos rituels ? Posez-nous toutes vos questions sur les effets du café sur notre santé. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. J'aimerais saluer tous les auditeurs bretons que j'ai eu le plaisir de croiser samedi à Rennes lors des formidables assises Vivre Ensemble organisées par Ouest France. À la préparation de cette émission, Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Nicolas Bove, et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were a young and callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow, follow. Try to remember when life was so tender that no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender that love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then follow, follow. Deep in December, it's nice to remember. Although you know the snow will follow. Deep in December, it's nice to remember. Without a hurt, the heart is hollow. Deep in December, it's nice to remember. The fire of September that made you mellow. Deep in December, our hearts should remember.
Qu'est-ce que c'est bon pour débuter la semaine? Arrivé la fonte, try to remember.
Je viens justement de faire du café. Il doit être encore chaud. T'en veux?
Tu parles si j'en veux.
Grand bien vous fasse.
Avec 4 sucres et un nuage de lait.
Sur France Inter.
10h23 et nous attendons toutes vos questions sur le café au standard de France Inter. 01 45 24 7000.
Oui, bien sûr, je bois du bon café. J'aime bien quand même boire une bonne tasse. Je prends ma cafetière italienne. Que je mène en vacances d'ailleurs.
Elle c'est matin, midi, et moi c'est les midis.
Allez, mettons, en partant au boulot le matin, si je suis un peu en avant, je prends un café. Ou à ma pause, je prends un café.
C'est une pause café. Bah, en fait, le matin en arrivant, c'est vrai. Tous les matins au distributeur, en arrivant, pour voir les collègues en même temps, discuter un petit peu, et puis après manger aussi.
J'en bois à peu près deux ou trois expressos le matin, et puis un après déjeuner, et puis un le soir.
Si j'en bois à 3 heures de l'après-midi, ça m'est déjà arrivé d'avoir du mal pour m'endormir. J'ai le plaisir de faire marcher la bécane de M. Georges Clonet.
Le soir, c'est rare, mais si j'ai une petite cigarette qui traîne ou deux, ben je me prends un petit café avec les cigarettes.
Et puis après le repas, c'est aussi cette occasion de se détendre, de parler d'autre chose.
Mais le café, c'est un plaisir personnel.
Propos recueillis par Nicolas Bov dans les rues de Paris la semaine dernière. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse aux bienfaits du café sur la santé. Le café, surtout connu pour contenir de la caféine. C'est quoi exactement la caféine que l'on ne retrouve pas seulement dans le café? Astrid Nelling, je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'INSERM et que vous êtes la spécialiste en France des liens entre le café et notre santé.
Alors la caféine, c'est un stimulant même. On considère même que c'est le psychostimulant, parce qu'il agit au niveau du cerveau, c'est pour ça qu'on l'appelle psychostimulant, le plus consommé dans le monde. Effectivement, il est présent aussi dans le thé, dans le maté, dans un certain nombre d'autres boissons, et aussi dans le chocolat. Il ne faut pas oublier le chocolat.
On ne l'oublie pas.
Non. Et là, effectivement, on éprouve tous le besoin, quand on se lève, on est un petit peu encore un peu engourdi de sommeil, et la plupart d'entre nous sont bien contents d'absorber un café, d'avoir notre attention qui s'éveille et puis de se sentir stimulé, d'être capable. Il augmente les capacités de concentration aussi, tout en apportant un bien-être et une relaxation. Donc on a ce double effet qui est très agréable au niveau du café.
Quand j'avale une tasse de café, au bout de combien de temps la caféine agit-elle?
Alors tout dépend de ce que vous avez dans l'estomac. Parce que dans un estomac vide, ça va être très rapide. Le passage se fait, on peut déjà voir l'arrivée au cerveau au bout de 2 ou 3 minutes. Si vous avez un estomac plein, ça va prendre un peu plus de temps. Mais on considère en gros qu'on atteint la concentration maximale dans le cerveau au bout de 20 à 30 minutes. Et elle reste constante pendant environ 45 minutes.
Et en combien de temps l'organisme élimine la caféine?
Alors ça, c'est variable en fonction des individus parce que ça dépend. On a une enzyme hépatique, une enzyme du foie qui élimine la caféine. Et on n'a pas tous la même forme de cette enzyme. Et donc, on a 2 groupes de population. On a un groupe de population qu'on appelle les métaboliseurs rapides, c'est-à-dire qui vont éliminer très vite. Ça peut être 1 heure. Enfin, quand on dit éliminer, c'est des notions chimiques, c'est-à-dire qu'on élimine la moitié de la quantité absorbée en 1 heure. Et on a des métaboliseurs lents, chez lesquels ça peut prendre 5, 6, 7, 8 heures.
Il faut éviter de boire du café quand on est d'un naturel surexcité.
je pense que ça n'arrange effectivement pas vraiment les choses. Mais après, ce sont des perceptions personnelles aussi. C'est assez difficile. C'est pas spécifiquement contre-indiqué, mais bon, on va.
Hippolyte Courty, vous êtes torréfacteur.
Oui. Alors, au sujet de la caféine, il faut avoir en tête toujours que le taux de caféine dans le café n'est pas le même en fonction des variétés ou des espèces de café.
Oui, ça c'est
le Robusta a plus du double de caféine que l'Arabica. Et dans les Arabica, par exemple, le plus connu pour cette raison et pour sa qualité, c'est le Bourbon pointu de la Réunion, qui a très très peu de caféine et qui s'approche des décaféinés, justement.
C'est quoi d'ailleurs la différence entre le Robusta et l'Arabica, François-Étienne ?
Alors, le Robusta.
Vous êtes torréfacteur également.
Comme son nom l'indique, le Robusta est une plante qui est plus robuste, donc elle pousse plus bas en altitude et elle arrive à lutter contre les maladies grâce notamment à un fort taux de caféine. C'est ce qui lui permet de se défendre contre les maladies. Et l'Arabica, qui est une variété beaucoup plus fragile, plus aromatique, pousse plus haut en altitude et permet d'avoir aussi beaucoup plus d'arômes et moins de caféine.
Astrid Denneling, quels sont les autres constituants du café ? En préparant cette émission, je me suis aperçu que le café possédait un taux très élevé d'antioxydants, plus que le thé vert, par exemple.
C'est tout à fait vrai, c'est ce qui surprend beaucoup de monde, et on a 2 à 3 fois plus d'antioxydants du café, dans le café, que dans le thé, et que dans le vin aussi.
Et la richesse en composés, comme les antioxydants, dépend de l'espèce et de la variété du café ?
Oui, il y a une grande variabilité en fonction de l'espèce, du terroir, du climat, et de la variété, bien sûr.
Alors, on a beaucoup de questions ce matin sur la caféine qui affecterait la qualité du sommeil. Qu'est-ce qui se passe si je bois une tasse de café vers 16-17 heures ? Est-ce que ça va m'empêcher de dormir ?
Alors, encore une fois, ça dépend des gènes que je porte. Parce que la caféine a une cible au niveau cérébral, un récepteur sur lequel elle se fixe. Et certains d'entre nous possèdent une forme de ce récepteur qui les rend insensibles aux effets de la caféine sur le sommeil. Donc vous pouvez très bien avoir votre mari qui a votre mari ou votre femme qui ne ressent aucun effet. Alors que vous, vous avez l'autre forme du récepteur. Vous êtes sensible aux effets du café sur le sommeil. Et bon, moi, par exemple, c'est mon cas. Et après 14 heures, je ne bois plus de café.
Alors, le café agit sur notre vigilance et sur notre attention. Alors, il y a des études qui montrent que le café réduit les erreurs quand nous conduisons.
Oui, il y a plusieurs études qui ont été faites, effectivement. Et il y a des enquêtes et des études qui ont été faites et qui ont montré, en fait, que boire une tasse de café était à peu près l'équivalent de faire une sieste de 15 minutes. Donc, on conseille aux gens qui commencent à se sentir un peu somnolents au volant de s'arrêter et de prendre un café.
Alors, mais attention, hein, le café ne supprime pas les effets de l'alcool. Bon, d'ailleurs, il faut éviter de prendre le volant quand on a bu de l'alcool. Mais si on est tenté de prendre une tasse de café pour amoindrir les effets de l'alcool, on évite.
Subjectivement, on a l'impression que les effets sont amoindris parce que le café a augmenté la vigilance, mais les effets physiologiques ne le sont pas, et du coup, c'est beaucoup plus dangereux, en fait, encore.
Bonjour Bernard, vous nous appelez de Saint-Germain-du-Bois. Bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour.
Alors, quelle est votre question ?
Alors, je voulais vous poser une question par rapport à l'acidité. Dans le cadre de l'équilibre acido-basique, je voulais savoir quels étaient les effets éventuels du café sur l'augmentation de l'acidité dans le corps.
Astrid Denneling, est-ce que le café acidifie le corps ? D'abord, il faudrait s'entendre sur ce qu'est l'acidification. Qu'est-ce que vous entendez par acidification, Bernard ?
Vous avez ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, c'est-à-dire que quand on a trop d'acidité, ça entraîne un certain nombre de conséquences, et on peut choisir des nourritures qui rendent le sang plus basique.
Astrid Denneling.
Voilà. Mais apparemment,
oui. Je pense que le café, à vrai dire, je ne sais pas trop. Je pense que le café est plutôt dans la catégorie des aliments légèrement acides. En attendant, je n'ai vu aucun travail qui a mis en évidence le fait que ça acidifiait le corps.
Hippolyte Courtier.
On est effectivement sur une boisson finie, hein. On est autour de 5 de pH. Si vous prenez des sodas industriels, on est plutôt à 2,5. C'est ça qu'il faut rappeler.
Oui, mais à contrario, par exemple, vous buvez un jus de citron, il va avoir un effet basifiant. Oui. Donc,
acide citrique.
Ouais, ah, donc on ne peut pas vraiment toujours se fier au pH tout seul. Quoi.
Merci beaucoup Bernard de nous avoir appelé. Tiens, on a une question d'Agnès de Francfort qui nous demande si le café a des effets sur les migraines. Elle nous dit que ça soulage ses migraines et que ça peut les déclencher également.
Alors oui, effectivement, il y a deux aspects. Le café, on a montré que le café diminuait les maux de tête et les migraines. Alors il a un effet antalgique propre et en plus, il potentialise l'effet des médicaments antalgiques au niveau des maux de tête. Par contre, c'est vrai que le café peut déclencher des maux de tête, mais ça, c'est plutôt chez les gens qui sont de gros consommateurs et qui vont finir par avoir un effet... L'effet inverse, en fait, c'est l'effet de balancier et auront des migraines qui sont déclenchées par l'abus de café.
Baptiste Beaulieu.
Oui, effectivement, parfois, il y a des patients ou des patientes qui consultent au cabinet médical pour des migraines. Et quand on fait l'interrogatoire, quand on recherche un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a parfois une consommation excessive de café et que revenir à des taux normaux de consommation améliore quand même l'état des céphalées.
Oui, oui.
Alors, est-il vrai que le café peut contribuer à réduire le risque de développer une maladie de Parkinson, mais également de retarder l'apparition de la maladie d'Alzheimer? Et j'ai lu également dans votre étude, hein, Café et Médecine, que le café pourrait protéger de l'accident vasculaire cérébral. On peut essayer d'y voir plus clair, Astrid Nelling? D'abord sur la maladie de Parkinson.
Alors, d'abord sur la maladie de Parkinson, les effets du café sur la maladie de Parkinson ont intéressé les chercheurs depuis longtemps. On a des études qui ont démarré en 1960. Enfin, c'est vraiment, il y a des millions de patients qui ont été examinés. Et on a un effet qui, dans certaines études, est vraiment majeur, où on a une réduction parfois de 3 fois du risque de développer une maladie de Parkinson. Et c'est un des rares effets où on a pu mettre en évidence que la consommation de café et de caféine avait un effet causal. C'est-à-dire que c'était bien elle qui réduisait le risque de Parkinson.
Et sur la maladie d'Alzheimer?
Alors sur la maladie d'Alzheimer, pour l'instant, on a très peu de cohortes. Je pense qu'il faut qu'on reste très prudent,
très prudent,
parce qu'on n'a pas beaucoup de données. Alors on voit des choses qui vont dans le sens d'une diminution de risque, mais je trouve que ce n'est pas suffisant pour l'instant.
Et sur l'AVC, l'accident vasculaire cérébral?
Alors sur l'accident vasculaire cérébral, là c'est très avéré parce qu'il y a eu une grosse étude de cardiovasculaire. Sur plus de 2 millions, une méta-analyse sur plus de 2 millions d'individus et qui a montré un risque avéré de réduction de l'accident vasculaire cérébral.
À quelle dose? Parce que là, on parle des effets du café sur la santé, mais c'est quoi? C'est 3, 4 tasses par jour? C'est moins de 3 tasses? C'est quoi la moyenne pour qu'il y ait des effets bénéfiques sur notre santé?
La plupart des effets bénéfiques qu'on décrit, on les trouve vers 3-4 tasses de café, ce qui est parfaitement en accord avec ce que l'agence de sécurité dit, c'est-à-dire ne pas absorber plus de 400 mg par jour, ne pas absorber de caféine, pardon.
Baptiste
Donc
Beaulieu.
C'est 4 tasses de café.
Est-ce qu'il y a un effet un petit peu... est-ce que ça use un petit peu le récepteur ou est-ce qu'au bout d'un moment, si on consomme trop de café, on n'aura plus cet effet stimulant qu'on avait auparavant?
Non, on a démontré en fait qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle de tolérance.
D'accord.
Aux effets du café. D'ailleurs, vous pouvez voir, vous regardez autour de vous votre propre comportement, vous n'avez pas tendance tous les jours à augmenter vos doses.
D'accord.
Pour avoir les mêmes effets.
On ne peut pas être dépendant en fait au café.
Pas au sens de dépendance stricte.
Faut-il éviter de boire du café quand on a de l'hypertension ou une arythmie cardiaque?
Alors,
une idée reçue qui veut, tiens, quand on a un peu d'hypertension, évite de boire du café.
Alors, le café n'est pas hypertenseur. Par contre, c'est vrai qu'il y a une étude qui vient de sortir qui a montré quand même que la catégorie des gens hypertendus était un peu différente des autres. Donc, pour l'instant, on peut rester un petit peu prudent. Il ne faut pas abuser de café chez l'hypertendu.
En préparant cette émission, j'ai été surpris d'apprendre que le café n'était pas mauvais pour le foie.
Au contraire. Alors là, c'est un des effets majeurs du café, c'est la protection du foie, protection de tous les aspects de maladies de foie, le cancer, les cirrhoses de différents types, toutes les hépatites, tous les types d'hépatites, et la maladie du foie gras aussi. On a des effets protecteurs majeurs dans toutes ces pathologies.
Aline Perraudin de Santé Magazine.
Vous parliez des effets protecteurs du café contre le cancer, mais pourtant il circule vraiment une infox sur le café, notamment en capsule, qui dit qu'il est sur les sites internet, qu'il est cancérigène. Et pourquoi? Parce qu'il contient en fait du furane, qui est une substance qui est, vous le savez, produite naturellement lors de la torréfaction. Et en fait, quand on regarde bien, il en contient très très peu, beaucoup moins enfin que la dose maximale admissible. Il faudrait peut-être boire au moins, même si on buvait 20 tasses de café par jour, on n'aurait aucun risque. Enfin, le risque certain, en tout cas, ce serait une surdose en caféine. Mais peut-être qu'il faut vraiment rappeler que le café n'est pas cancérigène, quelle que soit sa forme.
Astrid Nelling.
Et effectivement, le café n'est pas cancérigène du tout. Il est même plutôt protecteur dans certains cancers.
Lesquels, par exemple ?
Alors, le cancer de la prostate, le cancer de l'endomètre, qui est la paroi interne de l'utérus, le cancer du foie, bien entendu, et le cancer du pancréas aussi. Et dans la plupart des autres cancers, il est neutre.
Avec une consommation, on l'a dit, de 3-4 tasses par jour.
3-4 tasses par jour.
D'un très bon café. Ouais. Allez, il est temps de retrouver la chronique, alors voilà, de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, je rappelle que vous êtes médecin, écrivain, et chaque semaine, vous nous proposez une médecine à visage humain.
Oui, aujourd'hui, j'avais envie d'une histoire toute douce, aussi douce que le tube de Henri Belafonte qu'on a écouté tout à l'heure. Et à l'hôpital, vous savez, on n'est jamais à l'abri d'un petit miracle. Ils font toujours du bien quand ils surviennent, ces petits miracles. Et l'avantage d'être médecin et romancier, c'est qu'on exerce son œil à les voir. Être médecin et romancier élu par des soignants, eh bien, c'est un avantage au carré, puisque parfois, ils vous envoient des témoignages. En ce début d'année, j'avais envie de relayer celui d'une collègue infirmière qu'on appellera Fanny. Fanny a 28 ans quand elle reçoit Madame K, une jeune femme fraîchement débarquée en métropole, qui se présente à l'hôpital pour accoucher de son troisième enfant. La maternité est petite, les contractions de Madame K viennent à peine de débuter, les chambres sont déjà toutes occupées, donc on l'installe en salle de pré-travail, un peu à l'écart du service. Précautionneuse, Fanny lui monte le bouton d'appel et lui demande surtout, Madame K, vous sonnez ici s'il y a un problème, et je viendrai. Entendu ? Bien sûr, répond Madame K. Une heure passe, Fanny s'occupe d'autres patientes, quand en passant dans le couloir, devant la chambre de Madame K, par la porte entrouverte, elle entend la voix de Madame K qui l'appelle. « Excusez-moi, dit la patiente, pourriez-vous m'apporter une paire de ciseaux, s'il vous plaît ?» Étonnée, l'infirmière entre dans la chambre et Madame K tient son bébé dans les bras. Tout est tranquille. Au Japon, on appelle cela « naître durant le sommeil de sa mère ». Eh bien, c'est exactement l'impression que cela donne. On pourrait croire que l'enfant est né pendant le sommeil de sa mère. « Je voudrais une paire de ciseaux pour le cordon, » demande Madame K. L'infirmière est complètement affolée, s'étrangle à moitié. « Quoi ? Mais enfin, pourquoi n'avez-vous pas appelé ? Je vous avais dit d'appeler. » Vous voulez savoir ce qu'a répondu Madame K ? Madame K a dit « Vous m'avez dit d'appeler s'il y avait un problème. Il n'y a pas eu de problème. » Albert Einstein écrivait « Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Ben, » Peut-être que Madame K a raison. Peut-être qu'il n'y a pas de problème avec la vie. Jamais. Peut-être que la vie n'est pas une chose grave. En ce qui me concerne, je crois fort qu'elle peut le rester tant qu'on aura ce genre d'histoire à partager.
Les chroniques de Baptiste Beaulieu sont également à voir en vidéo sur le site de France Inter, la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et sur votre blog. Alors voilà, dans un instant, vous saurez comment choisir et préparer un bon café. 01 45 24 7000.
Voyage d'été de ton âme se repose des torrents. Si le temps qui te retourne est au calme, fais de lui ton amant. Les plafonds se voient recouverts de sable, le décor te revient. Nuit des jeunes autour de la table, ces lumières, tu retiens. C'est la lueur que je poursuis, sa flamme s'élève. Thank you.
rayon chaud de l'astre t'embrase. Le présent est sans fin. Mille heures se déversent comme des pétales. Les marées courent très loin.
Jeune interprétait la lueur.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Et nous attendons ce matin toutes vos questions sur le café au standard de France Inter 01 45 24 7000. Astrid Nelling, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'INSERM. Beaucoup de questions sur les effets du café sur le diabète de type 2.
On a découvert depuis 2000, c'est relativement récent, que le café exerçait un effet préventif dans le diabète de type 2. C'est un effet qui est vraiment marqué, qui touche toutes les populations, toutes les ethnies, les personnes obèses, non obèses. Enfin, c'est vraiment, vraiment universel. Et simplement, on se demande si la différence n'est pas liée au fait que le café, c'est un stimulant et que du coup, ça incite les gens à être plus actifs. Parce que le diabète de type 2, c'est aussi le diabète des gens inactif.
Réflexion de Baptiste Beaulieu.
Oui, je me disais sur les personnalités un tout petit peu anxieuses ou qui ont tendance à l'anxiété. Je le constate au cabinet médical, parfois certaines consomment beaucoup de café et la diminution de la consommation de café permet de rétablir des taux d'anxiété normaux.
Alors là, on se retrouve exactement dans le même cas de figure que le sommeil, c'est-à-dire que c'est ce même récepteur, le site d'action de la caféine au niveau cérébral, qui a des formes différentes et chez certains individus, elle les rend sensibles aux effets de la caféine sur l'anxiété. Donc il suffit de réduire les doses, effectivement.
Alors le petit truc à savoir pour faire le connaisseur en café, hein, ça aide toujours, c'est extrêmement simple.
Tiens, ton café.
Merci.
Combien de sucre ?
Le mec qui s'y connaît en café, vraiment, le boit sans sucre.
Ah non, moi je le bois sans sucre en fait. C'est amer, c'est dégueu, c'est amer, je veux vomir, il me faut du sucre, c'est amer, c'est dégueulasse, je veux vomir, c'est amer, c'est dégueulasse, c'est tellement bon.
Extrait d'un sketch de Cyprien, alors avec nous autour de la table, deux connaisseurs de café hein, qui le dégustent sans sucre, Hippolyte Courty, François-Étienne, vous êtes tous les deux artisans torréfacteurs. C'est sacrilège de boire un café sucré, François-Étienne ?
Moi, je suis pas dogmatique sur la question, je trouve que chacun boit le café comme il aime. Si on aime le chocolat, un café corsé avec du sucre, bah, ça fait sens. Par contre, si on aime une tasse de thé, si on aime les arômes, si on aime la douceur que peut procurer une tasse de café, en prenant quelque chose de pas trop torréfié, pas trop amer, c'est magnifique.
Hippolyte Courty.
Alors, c'est pas du tout sacrilège, parce qu'il faudrait qu'il y ait un dogme pour qu'il y ait un sacrilège, mais non, c'est pas sacrilège, c'est tout simplement inutile quand on boit des cafés de qualité. Et c'est votre expérience de ce matin.
Exactement.
Vous avez bu le café que je vous ai servi, vous avez dit, oh, mais c'est incroyable, c'est doux, il n'y a pas besoin de sucré. Et non, il n'y a pas besoin de sucré parce que le café de qualité, c'est justement une boisson qui est douce.
Christian Grataloup, je rappelle que vous êtes géohistorien. Vous prenez votre café sucré ou
non
sucré?
Non, effectivement, je ne prends pas sucré. Mais le café est arrivé, est né, enfin, dans le 12e, 13e siècle, dans un milieu qui connaissait le sucre. Qui prenait des boissons sucrées et de ce fait c'est le café qu'on a mis dans la boisson sucrée et pas l'inverse.
François-Étienne, expliquez-nous ce qu'est la torréfaction.
Alors la torréfaction c'est l'art de faire griller des grains de café qui proviennent de la cerise de café, il y en a deux. Donc c'est deux grains qui sont verts, qui sont secs et il va falloir en fait les cuire progressivement, en douceur, à cœur, sans les brûler. On dit qu'on brûle le café, mais en fait, le but, justement, pour faire du bon café, c'est de pas brûler le café, de laisser le café s'exprimer.
Hippolyte Courty.
Oui, c'est ça. L'idée de brûlerie est tout à fait étonnante et renvoie justement à une mécalité du café, puisque pour servir une boisson homogène et trouver un goût justement qui va être homogène, bah effectivement, si vous cramez votre matière première, vous allez bien. Donc la torréfaction, c'est une cuisson qui est extrêmement précise en fait, qui ressemble plus au travail des pâtissiers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à une seconde près, à un degré près, à un profil près, on aura à partir de la même matière première, des tasses complètement différentes.
On va essayer de préparer un bon café ce matin. Pour vous, François-Étienne, il n'y a pas de bon café en soi, mais un bon café pour soi.
Ouais, voilà, parce que les gens ont des sensibilités différentes à l'acidité, à l'amertume. C'est un petit peu les deux, la polarité qu'il y a sur le café, c'est les acides, les amers. Et donc, il y a des gens qui aiment des choses corsées. Faut pas oublier que il y a près d'un buveur de café sur deux, c'est ce que j'ai pu constater au quotidien sur les marchés quand je travaille, que une fois sur deux, quelqu'un met du sucre. Donc, quelque chose de plus amer va pas être choquant non plus parce que ça va être cassé avec le sucre. Et puis il y a l'acidité, il y a des estomacs plus fragiles et il y a de l'acidité dans le café. Pour les bons cafés, moi j'aime l'acidité, mais c'est une question de goût.
Comment choisir un bon café? On choisit plutôt de l'arabica, un robusta, café moulu, café en grain, Hippolyte Courty. D'abord café. Sur l'arabica ou le robusta?
Alors sur l'arabica et le robusta, bien qu'il y ait d'autres espèces, hein, comme le liberica, vous l'avez cité tout à l'heure, aujourd'hui, si vous voulez, il y a une révolution de l'arabica qui a eu lieu, qui est en cours depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Sur le robusta, ça commence à peine. Donc on a en fait des produits de qualité qui commencent à arriver, qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Donc le robusta, c'est typiquement ce qu'on appelle le café à l'italienne ou le café à la française quand il est fait à la va-vite. C'est-à-dire que ça va vous donner beaucoup de corps, beaucoup d'amertume, et beaucoup d'arômes de caoutchouc, carbonique, etc.
Faut pas oublier que le robusta, souvent, c'est une coupe qu'on utilise dans les cafés pour faire baisser les prix. Quand vous allez au bistrot, que vous avez un café qui laisse vraiment un goût très très long,
très
et,
amer.
Très amer, désagréable, astringent, souvent, c'est le robusta. Il peut y avoir des robustas de qualité, mais c'est extrêmement rare.
Mais on achète plutôt un café moulu ou en grain? Et qu'est-ce que ça apporte de moudre soi-même son café?
Ça apporte la fraîcheur. En fait, c'est comme quand vous rentrez dans un magasin de chocolat. Si ça sent le chocolat partout, ça veut dire que le chocolat est dans l'air et pas dans la tablette. Donc, vous pouvez repartir et acheter un bon chocolat chez un chocolatier dans lequel il n'y a pas cette odeur. Donc, et plus vous moulez, en fait, plus vous offrez une surface d'oxydation à votre café.
Et ça change quoi d'acheter son café chez un torréfacteur ou dans une brûlerie, François-Étienne?
Alors pour moi, il y a deux choses. Chez le torréfacteur, on fait des torréfactions dites lentes à 200 degrés.
Artisanales.
On dit artisanales ou traditionnelles. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que, par exemple, vous faites un tagine. Vous allez mettre des poireaux, du poulet, enfin plein de choses.
Mettez du poireau dans le tagine, vous?
Oui, moi je mets du poireau dans le tagine, je mets des navets, je mets un peu tout ce que je trouve, et des épices, voilà. Mais bon, si on le fait, on prend les mêmes ingrédients, la même base, on le fait cuire pendant une heure, et on le fait pendant 6 heures, 8 heures, il va pas se passer la même chose. Pour le café, c'est un petit peu pareil. Il y a des réactions chimiques qui se passent. Si c'est trop vite, comme le font souvent les industriels, le café est brûlé.
Parce que le café industriel, c'est une torréfaction flash, 2 minutes à 900 degrés, Hippolyte Courty?
Oui, ça arrive. Alors, on dit beaucoup de choses sur la torréfaction qui est en pleine révolution également, mais si c'est trop court ou si c'est trop long, c'est pareil, on va avoir deux effets, un petit peu comme l'effet de balancier dont on parlait tout à l'heure. Donc, en fait, pour chaque café, et ça c'est l'expertise de l'artisan, il y a un profil ou des profils possibles et parfois heureux. Et donc, c'est à vous de choisir votre artisan, mais comme vous choisirez votre pâtissier, par exemple.
Alors, on est nombreux à acheter notre café en supermarché. Qu'est-ce que je privilégie et qu'est-ce que j'évite absolument, François-Étienne?
Alors, moi, je dis qu'il faut essayer de privilégier le café en grains et de s'équiper d'un moulin, parce que c'est comme ça qu'on a le café le plus frais possible. Ce qu'il faut éviter, à mon sens, après, c'est encore une fois une question de goût, mais tout ce qui est mélange italien, ça, généralement, c'est on a de beaux apparats marketing pour dire c'est un café à l'italienne, mais il y a du robusta, donc qui dit robusta dit beaucoup d'amertume. Il faut éviter les sachets sous vide.
Ah oui, c'est ces paquets qui ressemblent à une brique dure, hein.
Voilà. Ouais. Il faut les éviter parce que généralement le café après torréfaction a besoin de dégazer, et donc quand il est mis sous vide, puisque le café après la torréfaction libère du CO2, quand il est mis sous vide, le sachet va gonfler, et pour éviter qu'il gonfle, donc on le laisse reposer à l'air libre, le café s'oxyde et on perd en qualité.
Hippolyte Courty.
Oui, alors je crois qu'il faut fuir les premiers prix puisque c'est la civilisation du low cost. Il faut jamais oublier que on parlait tout à l'heure du café vendu. Le café, avant d'être vendu, il est produit. Et qu'aujourd'hui, il y a une déprise de la caféculture mondiale parce que les producteurs sont dans la misère et donc on peut pas aller vers de la qualité. Mais qualité aussi bien sanitaire, parce qu'on n'a pas parlé de certains, justement, toxines qui peuvent se développer. Donc il faut fuir ces premiers prix. Il faut aller vers le labellisé. Le labellisé, c'est un moindre mal. Le monde idéal n'existe pas, mais c'est un moindre mal. Donc quand vous allez vers le bio, vers à minima, vers l'équitable, etc., vous aurez, au-delà de tout choix de goût gustatif, vous aurez quelque chose de bien meilleur en supermarché.
Je vous ai apporté le café que j'achète, François-Étienne. Est-ce que j'ai tout faux ou tout bon?
Alors, vous avez faux sur le côté moulu.
D'accord.
Vous avez bon parce que c'est un café bio. C'est du 100% arabica.
Torréfaction artisanale.
Donc, le café industriel, c'est pas forcément des torréfactions flash. Il y en a certains qui le font, qui font des torréfactions lentes. Donc, regardez les paquets.
Il faut repérer la valve.
Voilà, il y a une petite valve sur le haut du paquet généralement qui permet au café de libérer du CO2. Et quand vous pressez la valve, vous allez sentir votre café. Donc déjà, ça vous donne une première indication.
Christian Grataloup.
Oui, c'était juste une petite note historique. La brique dure, comme vous dites, c'est-à-dire le café mis sous vide, c'est totalement lié au supermarché dans les années 60. Et avant, tout le monde achetait du café qui était torréfié souvent par l'épicier du coin, plus ou moins bien, effectivement. Et il y a le gendre d'un petit torréfacteur de Montpellier. Et ce gendre s'appelait Jacques Vabre, qui a eu l'idée de mettre ce café sous vide. C'est ces fameuses briques dures. Et là, il a fait gagner les supermarchés.
Bonjour Magali. Bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de Lyon. Quelle est votre question, Magali?
Oui, en fait, mon torréfacteur me racontait que dans les concours de dégustation, voire des championnats, parce qu'apparemment ça existe, la meilleure façon de déguster le café était simplement de rajouter de l'eau chaude, pas bouillante, sur du café dans un bol, et de laisser le café se déposer, et que c'était ce qui permettait de libérer tous les arômes. Donc il me conseillait une cafetière à piston. Plutôt que les cafetières italiennes qui brûlent le café.
Hippolyte
Courtis. Je voulais savoir si effectivement cet avis est partagé.
Au-delà de tout nationalisme, effectivement, entre la cafetière italienne et ce qu'on appelle la French press partout dans le monde, mais en France, la cafetière à piston au mieux, parfois on utilise le nom d'une marque étrangère. Mais effectivement, l'infusion, c'est toujours, hein, mais pour tous les produits, l'infusion, c'est la préparation, le mode de préparatoire qui va vous permettre d'extraire le plus de complexes, le plus grand nombre de composants à votre boisson. Donc effectivement, il faut préférer l'infusion à toute autre chose. Mais si vous aimez l'infusion, vous voyez, l'espresso, moi, j'adore, mais vous allez vers une autre boisson. Voilà.
Merci beaucoup, Magali, de nous avoir appelé. Tiens, sur la cafetière à piston, François-Étienne, il y a des erreurs à éviter, hein.
Alors, si vous voulez éviter les giclures, les brûlures, les... Quand vous utilisez votre cafetière piston, il faut une mouture grossière, un petit peu comme de la semoule. Or, le problème, c'est que tout le café moulu qu'on trouve dans le commerce, il est moulu pour de la filtre, éventuellement pour de l'italienne, mais c'est pas adapté ni à l'espresso ni à la piston. Donc, quand on presse, quand on utilise sa French press avec du café qu'on achète au supermarché, on surextrait le café, on risque de presser très fort, de se gicler de l'eau chaude dans l'œil ou ailleurs. Il peut même y avoir aussi du marc de café qui reste entre les dents. Enfin bon, bref, ça peut apporter plein de désagréments. Et donc, je conseille aux gens d'utiliser une mouture adaptée, d'aller chez son torréfacteur ou d'utiliser un moulin.
Une mouture plutôt grosse, hein,
oui,
pour
grosse.
Les cafetières à piston. Ouais. Que pensez-vous des cafetières électriques et accessoirement des filtres à café en papier, Hippolyte Courtis?
Alors, déjà, je voulais revenir un petit peu sur le grain. Effectivement, on a de quoi sauver effectivement l'usage domestique parce qu'on sort dans un mois un moulin manuel pour la maison, donc qui va permettre justement d'adapter la mouture à la préparation. Sur les cafetières électriques, il commence à y avoir quelques modèles, pareil, la révolution commence, qui sont intéressants puisque qui permettent d'avoir une eau à juste température et une diffusion de l'eau également qui permet d'extraire la majorité des arômes.
C'est quoi la bonne température de l'eau et est-ce que l'eau du robinet, on l'utilise ou pas, ou on la proscrit?
Alors, la bonne température, on est autour de 90 degrés, donc un petit peu en dessous de la température d'ébullition. Et puis l'eau, effectivement, l'eau du robinet, on peut faire tout un débat dessus, mais elle a beaucoup d'additifs, hein, du chlore, etc., qui va effectivement taire certains composants aromatiques de votre café. Donc il faut mieux une eau, si vous regardez les résidus à sec, il faut mieux une eau moyennement minéralisée, autour de 100 mg par litre.
Pour avoir la classe, en fait, il faut avoir absolument la cafetière avec les capsules. Hein, y a une vingtaine de capsules de toutes les couleurs, avec des noms que tu ne retiens pas.
Livanto.
Enfin, c'est une capsule marron, quoi, en fait.
Et qui ont plus ou moins toutes le même goût, hein. À un moment, faut se le dire, quoi. Hein. Il suffit de lire la description des goûts des capsules pour comprendre qu'on se fout totalement de ta gueule.
Vivalto Longo. Complexe et équilibré. Et ma capsule préférée. Dulçao do Brasil, doux et moelleux. Tiens, ton Dulçao do Brasil. Merci. doux et moelleux, vraiment, vraiment comme je l'aime. Quoi. C'est,
en fait, je t'ai fait un Vivalto Longo.
Extrait d'un sketch de Cyprien. Que pensez-vous des machines à dosettes, à capsules de plus en plus répandues, François-Étienne, Hippolyte Courty?
Alors moi, je pense que l'extraction est pas mal, elle est même plutôt bien. On arrive à avoir dans une toute petite machine la possibilité de se faire un espresso très rapidement, c'est pratique, mais l'inconvénient, c'est, moi je trouve, c'est le café qui est dedans, qui est assez plat, ennuyeux et qui ne me raconte pas d'histoire.
Et puis la facture du café au kilo avec les dosettes, elle est très salée, et puis il y a aussi un impact écologique, évidemment, Hippolyte Courty.
Oui, ce que vous payez, c'est effectivement la dosette, c'est pas le café. Donc ça dépend ce que vous, ça relève du choix individuel. C'est 40 000 tonnes de déchets par an. C'est le monde tel qu'il ne peut plus être, tel qu'il ne sera plus. Donc c'est vraiment pour moi la façon de faire d'hier et qu'il faut vite oublier. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on a ces cafetières à filtre, par exemple, qui arrivent et qui sont le bonheur de demain.
D'ailleurs, comment on reconnaît un bon expresso dans un bistrot, François-Étienne?
Alors déjà la première chose, vous pouvez regarder le barista, enfin la personne qui prépare le café, tasse le café ou non. Si elle le tasse pas, il y a deux raisons, soit elle sait pas et c'est qu'elle a pas été formée, soit que c'est que le café passera pas autrement et qu'il sera hyper amer. Donc très souvent, moi je demande pourquoi vous tassez pas votre café. Ils me disent attendez, vous l'avez pas goûté, si vous le goûtez, voilà. Et puis après, on regarde la crème. La crème, elle doit être dorée, elle doit être persistante.
Si elle est marron foncé.
C'est qu'il y a du Robusta et on peut aimer, mais elle est trop rarement marron foncé. Elle est plus, en général, palote, couleur café crème, comme on dit. Et là, effectivement, c'est de lavasse.
Le conseil de base, quand on prépare son café, pour terminer, Hippolyte Courty?
Alors, c'est d'avoir un café de bonne qualité, effectivement, et de faire attention à deux paramètres, le temps et la température de l'eau.
François-Étienne?
Un café fraîchement torréfié et moulu le plus tard possible, soit chez soi, soit chez le torréfacteur.
Merci à tous, en tout cas, d'être venus. Merci Astrid Nelling. Je vous laisse retourner dans votre laboratoire de recherche à l'INSERM. Merci Christian Grataloup. Le monde dans nos tasses et chez Armand Collin. Merci François-Étienne. Je recommande vraiment le guide pratique du café. C'est publié chez Erol. Également, Hippolyte Courty, un très beau livre exhaustif aux éditions du Chêne. Ça s'appelle tout simplement Café. Demain, nous recevrons Christophe André, Mathieu Ricard et Alexandre Jolien, les fameux trois amis qui nous aideront à être plus libres dans notre vie. Question-réaction demain dès 9h au standard 01 45 24 7000. Au standard ce matin, Sacha Trop et on va me le dire au casque, et Rémi Sistiaga.